Voici votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité vue par les médias francophones publics. L'accent des autres, c'est comme d'habitude avec la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada, France Inter et la RTBF. Et on va d'abord se rendre en Suisse aujourd'hui. La Suisse où les partenaires sociaux collaborent pour faciliter l'accès des réfugiés ukrainiens au marché du travail. Pierre Anchoffat.
Entre apprentissage de la langue, reconnaissance de la formation et garde des enfants, les obstacles ne manquent pas. Mais Berne croit à ce facteur d'intégration si la guerre se prolonge.
Et dans ce contexte, certaines entreprises ont décidé de quitter la Russie ou de ne plus travailler en Russie en raison évidemment de l'invasion en Ukraine. C'est le cas du constructeur automobile Renault. Karine Bécard, il a décidé de suspendre les activités de son usine de Moscou.
Oui, une décision qui a été suivie de près dans les autres usines de l'Hexagone. Dans un reportage sur le site historique de Flins, dans les Yvelines, vous entendrez l'inquiétude de certains salariés.
La Belgique endeuillée cette semaine. Jacques Crémers, 6 personnes ont été tuées par un automobiliste lors du démarrage du carnaval de Strépy-Bracny dans le Hainaut.
Oui, ça s'est passé le week-end dernier. Une voiture a fauché des giles, une troupe carnavalesque et des habitants de l'entité au petit matin. Le carnaval démarré, il a viré au drame, en cause certainement la vitesse, mais l'enquête ne fait que débuter.
En Afrique, nous avons retenu cette semaine l'émotion, Nicolas Sûr, l'émotion et l'indignation après la mort de l'ancien Premier ministre malien.
Oui, gravement malade, Soumaïlou Boubey Maïga était en détention dans une clinique de Bamako. La junte avait refusé son évacuation sanitaire.
Enfin, nous nous quitterons cette semaine au Québec où le gouvernement de François Legault a présenté son dernier budget avant les élections provinciales d'octobre. Nadi Mobarak, presque tous les adultes recevront un cadeau prochainement.
Oui, ils vont bénéficier d'un crédit d'impôt de $500, soit 360 euros pour compenser l'augmentation du coût de la vie.
Voilà donc pour les titres. Bienvenue dans l'accent des autres. La barre des 10 000 réfugiés ukrainiens a été franchie en Suisse au début de cette semaine et ces réfugiés, Pierre, auront donc le droit d'accéder au marché du travail.
Oui, le gouvernement a rapidement confirmé cette possibilité alors que ce droit n'existe pas pour les requérants d'asile qui suivent une procédure ordinaire, ce qui ne veut pas encore dire que ce sera facile. Mais les partenaires sociaux vont y travailler ensemble. Marco Taddei de l'Union patronale relève que l'incertitude quant à la durée de leur engagement pourrait être un frein.
D'un point de vue de l'employeur, on privilégie de la prévisibilité. Pour certaines tâches, il faut effectivement plus de temps pour mener à bien une mission. Ça pourrait être un problème. Pour des tâches plus saisonnières, ça ne poserait, à mon avis, pas de problème, mais à condition que les personnes remplissent les conditions, notamment de qualification et de connaissances linguistiques.
Alors Marco Taddei le dit, la question de la langue sera aussi un obstacle, Pierron.
Disons que maîtriser l'anglais sera déjà une ouverture, mais des cours de français, d'allemand ou d'italien, selon la région où ces réfugiés seront accueillis, vont se mettre sur pied. Les cantons sont toutefois déjà fortement sollicités par la scolarisation des enfants, car comme ailleurs, ce sont d'abord des femmes et des enfants qui arrivent, ce qui présente un autre écueil pour l'accès au marché du travail, vu la pénurie chronique de places dans les crèches.
Et en dépit de ces obstacles, cette perspective d'intégration professionnelle est unanimement saluée.
Surtout parce que ce droit offre une vraie chance que ces personnes accèdent à des emplois en rapport avec leur formation. C'est en tout cas l'espoir de Véronique Polito du syndicat UNIA.
C'est un problème qu'on a justement dans le domaine des réfugiés, qu'on ne tient pas compte des qualifications des personnes, alors que c'est essentiel pour une intégration réussie. Parce que si vous intégrez des gens qualifiés, par exemple une infirmière, puis que vous lui demandez de travailler en cuisine, elle n'aura peut-être pas non plus la satisfaction au travail qu'elle pourrait avoir si elle peut utiliser ses réelles compétences.
Mais ses perspectives d'emploi et d'intégration dépendront bien sûr de la durée de la guerre.
Et à propos d'intégration, on soulignera qu'en Belgique, la RTBF vient de lancer une initiative baptisée RTBF Ukraine, Jacques.
Oui, une web radio avec des contenus en ukrainien à destination de celles et ceux qui arrivent en Belgique. L'objectif est de faciliter leur insertion, mais également de favoriser les liens au sein de cette communauté et avec la population belge. On y trouve des infoservices, ce qui fait l'actualité en Belgique, et aussi des contenus pédagogiques.
Nous говоримо про місто Брюссель. Місто Шарлеруа – Брюге. Це являється почесним званням. Про що пікується комуна в Бельгії?
Ce programme en boucle est présenté, vous l'entendez, par Micha, un jeune Ukrainien. Il est disponible en DAB+, en streaming. Il y a aussi une page web et des podcasts.
Et on notera aussi que les principales radios francophones belges ont organisé une journée de soutien aux réfugiés ukrainiens ce mercredi. L'opération a permis de récolter près de 7 millions d'euros. Vous savez qu'en raison de cette invasion russe, plusieurs grands groupes, plusieurs grandes entreprises ont décidé de quitter la Russie. En France, le constructeur automobile Renault annonce avoir suspendu les activités de son usine de Moscou. Il dit aussi évaluer les options concernant sa participation dans sa filiale russe Avtovaz. Décision plutôt bien accueillie par les salariés de l'usine Flin dans les Yvelines. C'est ce qu'on va voir avec Marie Maheu.
Même si tous ne sont pas encore au courant en bas de Jean avant de prendre leur poste, ce qui domine, c'est l'approbation parmi les quelques 2400 salariés du site.
Honnêtement, c'est un soulagement. C'est un vraiment une démarche, quoi. Ça donnerait une meilleure image du groupe.
Je trouve que c'est bien. C'est très bien pour ce qui se passe en Ukraine. Je trouve que les entreprises françaises n'ont pas besoin de faire profit vu la guerre.
La conjoncture actuelle, c'est peut-être une bonne idée parce qu'il y a une solidarité qui s'est formée. Et je pense que c'est une bonne idée d'y participer.
D'autres sont plus frileux, craignent de perdre la Russie, deuxième marché après l'Europe pour Renault. Hassan, lui, Carista Flin, redoute même la réaction de Vladimir Poutine.
Oui, il est fou, il ne faut pas jouer avec lui. Il faut essayer d'arranger ça. À l'amiable. Avec ce mec-là, il faut s'arranger.
Et en tout cas, tout s'accorde ce matin au moins sur un point. Il faut continuer à payer les quelques 45 000 salariés russes du groupe.
Les salariés en Russie, eux, ils sont pour rien dans ce conflit.
C'est normal pour eux qu'ils soient payés. Ils n'ont rien demandé. Je trouve que c'est normal.
On se met à leur place. C'est des pères de famille pour certains. Donc, c'est la moindre des choses, je pense.
Et sur l'avenir, même si certains évoquent la possibilité de revenir en Russie, il faudra être plus prudent, plus méfiant, peut-être, me confier l'un de ses salariés.
L'accent des autres.
Le reste de l'actualité, c'est d'abord la Belgique endeuillée. Le carnaval de Strépy-Bracny dans le Hainaut a donc tourné au drame dimanche dernier. Un automobiliste a foncé dans la foule au petit matin et le bilan est très lourd. 6 morts, de nombreux blessés, dont plusieurs sont toujours dans un état critique, Jacques.
De nombreuses localités belges s'apprêtent à vivre ce week-end de nouvelles festivités carnavalesques, mais dimanche dernier, ce qui devait être un moment de fête a viré au drame. Il était à peine 5 heures du matin, c'est ce qu'on appelle le ramassage, c'est-à-dire que les Gilles, un groupe carnavalesque régional, se rassemblent peu à peu pour former un cortège. Et c'est à ce moment qu'une voiture déboule à vive allure dans cette rue de Strépy-Bracny. À bord, deux cousins d'une trentaine d'années, ils rentrent d'une boîte de nuit, le chauffeur roule trop vite, il heurte la foule. 6 morts, une dizaine de blessés graves et plus de 20 blessés légers. Ceux qui ont vécu ces événements sont traumatisés.
C'était un carnage. On aurait dit un cauchemar réveillé. C'était vraiment irréel, comme qu'on le voit dans les films. Mais là, c'était bien réel en face de nous. Vraiment des gens de chaque côté, des gens qui criaient.
Il y a eu ce bruit sourd et puis ça a volé en éclats, on a été projeté à gauche, à droite. Et c'était le carnaval de l'horreur que j'appelle moi. À un moment donné, ça devait être la liesse et puis il y a eu ça.
Voilà, le traumatisme, on l'imagine. L'enquête de son côté démarre et se poursuit. Des expertises et des analyses sont en cours. Jacques, le chauffeur, est arrêté. Il est inculpé d'homicide involontaire.
Et son taux d'alcoolémie était légèrement supérieur à ce qui est autorisé. Il ne nie pas la vitesse, mais son avocat estime que le carnaval aurait dû être signalé sur la voie publique.
Vous avez quelqu'un qui travaille la nuit, qui fait plus ou moins 500 à 600 km par nuit, puisqu'il est livreur. Il prend cette route-là absolument tous les jours, à la même heure, plus ou moins. Et ce jour-là, alors qu'il n'y a aucune signalisation, alors qu'il n'y a rien qui annonce qu'il va se retrouver face à un mur de personnes. Alors certes, il avait une vitesse qui était excessive, qui était de l'ordre de 80 à 90 km/h. Mais même en respectant la vitesse autorisée de 50 km/h, les dégâts malheureusement auraient été fort importants.
Les premières funérailles ont eu lieu ce vendredi. Sur les réseaux sociaux, certains ont exigé une peine particulièrement sévère. Mais ce sont les seuls procès-verbaux en possession de la juge d'instruction, un examen neutre et impartial qui permettent de qualifier les faits. Cette qualification d'homicide involontaire peut d'ailleurs encore évoluer au fil des développements de l'enquête et elle n'exclut nullement l'empathie de la justice à l'égard des victimes de l'accident.
L'actualité sur le continent africain, à présent, elle nous emmène cette semaine au Mali. Il aura été pendant des années l'un des hommes forts du pays, l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga, est décédé sous étroite surveillance dans la clinique où il avait été transféré. Nicolas, la junte militaire n'avait pas donné suite à de multiples demandes d'évacuation sanitaire.
Boubey, comme on l'appelait, est incarcéré fin août dans le cadre d'une enquête anticorruption liée à l'achat d'équipements militaires. Détenu dans une cellule surpeuplée de la maison centrale d'arrêt de Bamako, il contracte une grave maladie. 3 mois plus tard, amaigri de plus de 20 kilos, il est transféré d'urgence en clinique. Le Mali ne dispose pas du plateau médical nécessaire pour le soigner. Les médecins demandent son évacuation sanitaire en urgence. Les autorités de transition font la sourde oreille.
Alors comment expliquer, Nicolas, cette intransigeance de la junte au pouvoir ?
Elle-même ne l'a jamais justifiée. La femme de Soumaïlou Boubey Maïga s'était publiquement engagée à ce qu'il rentre au pays pour faire face à la justice une fois soigné. De très nombreuses sources politiques estiment qu'il était en fait un homme gênant, doté d'un important réseau diplomatique et militaire tissé du temps où il était à la tête des services de renseignement puis ministre de la Défense. Il connaissait assurément de nombreux secrets. On lui prête aussi l'intention de se porter candidat à la future présidentielle, ce qui pour ses proches n'était pas du goût de la junte. Sa mort en tout cas a provoqué des réactions d'indignation. « Je pensais que de tels assassinats relevaient d'une autre ère », a notamment réagi Mohamed Bazoum, le président du Niger voisin.
On va se quitter cette semaine avec les finances du Québec. Le Québec qui a présenté son budget mardi dernier. Et Nadi Mobarak, un élément a retenu tout particulièrement l'attention, un chèque de 500 dollars canadiens par personne.
Oui, c'est une mesure qui est au cœur de ce budget. Un chèque de 500 dollars ou de 360 euros pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Un montant dont tous les adultes pourront profiter dès ce printemps si leur revenu ne dépasse pas 100 000 dollars ou l'équivalent de 72 000 euros. Cette mesure touchera plus de 6 millions de Québécois. Il s'agit grosso modo de 94% des contribuables québécois, qu'ils soient réellement dans le besoin ou non.
Alors comment réagissent, Nadine, les partis d'opposition à cette mesure ?
Eh bien, l'opposition dénonce une mesure qu'elle estime destinée à acheter des votes le jour des élections provinciales le 3 octobre prochain. Elle parle donc d'une mesure électoraliste. L'opposition estime que cet argent aurait pu être mieux utilisé et que la mesure aurait pu être mieux ciblée.
Nadi, les grands syndicats ont aussi réagi.
Oui, tout à fait. Les grandes organisations syndicales se montrent déçues du budget. Elles voient ce chèque offert aux contribuables comme une mesure temporaire qui ne résoudra pas à moyen terme les difficultés que vivent les gens à faible revenu dans un contexte inflationniste.
Merci Nadi Mobarak à Montréal donc, et merci à tous ceux qui ont participé à l'Action des autres. L'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Les médias francophones publics et l'Action des autres viennent bien sûr la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.